5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Engines full power and lift off. Go Falcon, go NASA.
Ça y est, Sophia Noe décolle le 13 février à 11h. La Française quitte la Terre, direction l'ISS. 3 ans d'entraînement pour 9 mois à bord de la Station Spatiale Internationale. Entre expérience scientifique, entretien de la station et sport, à quoi ressemblent ces journées? Comment le corps s'adapte-t-il à la pesanteur? Comment mange-t-on, dort-on, travaille-t-on dans l'espace? Bonjour, je suis Léa Bertrand et avec Yves Pulici, on vous emmène à bord de l'ISS, ou presque, à la rencontre de celles et ceux qui communiquent avec la station depuis la Terre et de celles et ceux qui y sont déjà allés. Nous entendrons dans cette série de 3 épisodes les enjeux d'aller dans l'espace encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va y chercher? Comment l'Europe aussi tente d'être à la pointe de l'exploration spatiale? Et dans cet épisode, à quoi ça ressemble, la vie à 28 000 km/h et à 400 km de la Terre. Le CADMOS, pour Centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales, c'est une structure du Centre national d'études spatiales basée à Toulouse. C'est de là qu'on suit toutes les missions des astronautes français dans la Station spatiale internationale.
On vient de rentrer dans une...
Ouais, c'est la salle de contrôle du CADMOS, donc c'est de là qu'on accompagne les astronautes pendant le déroulé des expériences. Donc, je m'appelle Rémi Canton, je suis chef de projet de la mission Epsilon pour le CNES et chef de projet vol habité au CADMOS, au CNES à Toulouse.
Le CADMOS a 2 rôles, préparer les expériences, les choisir, les concevoir, les fabriquer en quelque sorte. Et évidemment, il faut aussi que ça réponde aux objectifs scientifiques, technologiques et de sécurité, notamment de l'ISS.
Donc on a notre rôle au CADMOS, il est double, à la fois en amont de préparer les expériences, donc de les choisir, de les concevoir, de les fabriquer en quelque sorte. Évidemment, il faut que ça réponde aux objectifs scientifiques et technologiques qu'on a donnés au départ et que ça réponde aux normes de sécurité, notamment de l'ISS. Et ensuite, une fois que c'est dans la station, on a ce rôle-là d'opérateur, donc à la fois d'opérer les expériences qu'on a développées nous ici au CNES, mais l'Agence spatiale européenne nous délègue aussi tout un ensemble d'expériences. Donc là, on a les données à l'écran, on a les caméras vidéo, on entend, je ne sais pas si vous entendez, mais les...
Oui,
c'est ça, c'est en direct.
On va mettre un peu plus fort.
Ben voilà, là.
Ils sont par là.
Qui vient de parler là?
Alors là, je ne sais pas dire parce qu'en fait, il y a beaucoup de boucles audio. Si on le regarde sur les écrans, je peux revenir sur le planning. Si vous regardez l'écran qui est la dernière rangée, enfin le plus à gauche là, avec ouais. Le pavé bleu, gris et vert, chaque pavé est comme une radio, on va dire une fréquence, une boucle audio. Donc les bleus, c'est toutes celles qu'on écoute. Donc, ça veut dire que les grises, on estime qu'on n'en a pas besoin.
Okay.
Et la verte, c'est celle dans laquelle on part. Par là, pardon. On n'arrose pas la Terre entière, on choisit qu'on parle à tel canal. Donc tout ça, c'est un peu comme dans les tours de contrôle, hein. C'est très réglementé.
Donc si vous entendez un petit bip-bip avant qu'une intervention, c'est un astronaute qui parle, donc là c'est vraiment l'espace vers la Terre. Après, c'est les personnes qui répondent au sol. Donc je suis Emmanuel Tulliès et je suis responsable des opérations au CADMOS, de tout ce qui se fait comme expérience scientifique dans l'ISS et qui est confié à la France.
Au quotidien, là, comment ça va se passer pour Sophia Noe?
Alors à partir du moment où elle va arriver dans l'ISS, elle a tout un programme d'expérience scientifique. Elle va en réaliser environ 200 différentes. Nous, ici, au CADMOS, on va en réaliser entre 25 et 30. Elle va contribuer à 25-30 expériences différentes dans l'ISS, dont certaines qui ont été développées spécifiquement pour son programme, donc dans le cadre de la mission Epsilon. Alors derrière moi, on voit donc d'un côté ce qu'on appelle le 9-pack, c'est-à-dire 9 caméras qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ISS et qui diffusent de la vidéo temps réel. Et après, sur la partie centrale, on a le planning des astronautes et de toutes les activités même qui sont menées à bord de l'ISS.
Donc on affiche le planning de chacun des astronautes. Donc là, en ce moment, ils sont que 3 à bord.
Là, on le voyait sur le planning des astronautes, leur journée est pleine tout le temps.
Oui.
Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer.
Non, en fait, comme c'est des missions de 6 mois, c'est des journées de travail un peu comme au sol.
Il y a premier rapport de l'équipage très tôt le matin, 6h30 ou 7h, pour faire le point sur les paramètres. Il y a de la télémétrie, des données qui sont transférées au sol. Claudie Aigneret, ancienne astronaute du CNES et de l'Agence spatiale européenne.
Claudie Aigneret est la première femme à avoir posé un pied dans l'ISS. On est en 2001, elle est médecin à l'hôpital Cochin à Paris et elle tombe sur un appel à candidature du CNES. À ce moment-là, l'Agence spatiale française cherche de nouveaux profils pour utiliser la station comme un laboratoire. Des ingénieurs, des chercheurs, des docteurs. Elle candidate, est sélectionnée et passe 8 jours à bord.
On a reçu un planning de travail quotidien et sur la semaine. Un planning qui va évoluer un petit peu parce que rien n'est jamais comme c'était prévu, bien évidemment, dans ces environnements complexes. Donc la mise à jour du planning du jour. Et le planning du jour, eh bien, c'est des expériences scientifiques sur le programme scientifique, des tests technologiques sur des développements technologiques. C'est de la maintenance et de la réparation, parce qu'une station spatiale, c'est une énorme machinerie. Donc, je le disais, on est à la fois le plombier, le réparateur, celui qui reboote les ordinateurs, celui qui vérifie que tout fonctionne bien, que le taux d'oxygène et de gaz carbonique est OK, remplace les cartouches, enfin, tout ce qu'il y a à faire. Avec un petit peu de temps, mais qu'on prend chacun de son côté pour prendre un petit goûter ou un déjeuner, on a quand même pas toujours le temps d'être en commun dans une station spatiale. On essaie de se garder des moments de convivialité où on est tous ensemble, mais on est tous affairés sur nos programmes scientifiques avec des communications avec le sol pour soit transférer des résultats, soit poser des questions complémentaires pour que la manip se déroule bien. Et voilà, la journée, elle se passe de façon très très occupée.
Bonjour, Raphaël. Enchanté, Yves.
Bonjour Yves.
Merci beaucoup.
Bienvenue à
l'EAC. C'est ça votre bureau du coup ?
Voilà, c'est ça. Je m'appelle donc Raphaël Liégeois, je suis astronaute belge à l'Agence spatiale européenne. On est dans une réplique du module Columbus. C'est un des modules de la Station spatiale internationale et Columbus, c'est la contribution européenne à la Station spatiale internationale.
Raphaël, c'est l'astronaute européen qui s'envolera après Sophie Adno dans l'ISS. Il nous emmène dans le module Columbus à Cologne, le laboratoire européen de la station. C'est une réplique à taille réelle, un espèce de module cylindrique avec des ordinateurs, des câbles, plein de boutons, tout ce qu'il faut aux scientifiques pour expérimenter dans l'espace et pour s'entraîner avant de décoller.
Et dans la pièce d'à côté, il y a quoi alors ?
Alors, la pièce d'à côté, c'est le nœud numéro 2. C'est donc l'avant de l'ISS. Et alors, un des éléments les plus importants qu'on a dans ce module-ci, c'est la chambre des astronautes de la partie américaine de l'ISS. Les astronautes européens font partie de ce contingent américain. Et donc, on a 4 chambres. Une chambre ici.
Ouais.
Alors, ça paraît un peu bizarre d'avoir une chambre comme ça, une chambre droite, mais sans gravité, ça change absolument rien. Et on dort donc dans les sacs de couchage qui sont scratchés au mur, de nouveau pour pas flotter n'importe où, même si la porte est fermée, mais bon, voilà. Et c'est le seul espace privé que les astronautes auront pendant les missions. Le quotidien, on va essayer de passer à travers les différents éléments, les repas, la nourriture. Il y a des exemples là, on peut aller voir si tu veux. Voilà, donc ça c'est des exemples de rations de nourriture qui sont disponibles à bord de la Station Spatiale Internationale. C'est un peu plus ragoûtant maintenant, parce que ça date d'il y a quelques années quand même. Un suprême de volaille, voilà. Corned beef, teriyaki chicken déshydraté, donc il faut remettre de l'eau dessus, et puis voilà. Il y a quelques contraintes pour la nourriture, mais pas tant que ça, donc évidemment pas d'alcool, mais il faut aussi pas qu'il y ait des miettes qui aillent voler partout dans l'ISS. Et à part ça, ben, voilà, c'est principalement des plats déshydratés ou qu'il faut juste réchauffer. Pour aller à la toilette, la question que tout le monde se pose. Il y a à l'avant, ici sur la droite, juste à côté du tapis de course dont je te parlais tout à l'heure, il y a une toilette qui fonctionne donc en 0G. Alors en 0G, on n'a pas envie que les déchets aillent voler n'importe où, donc il y a des systèmes d'aspiration qui permettent que les déchets aillent où ils doivent aller et pas n'importe où. On m'a quand même dit que la première fois que j'allais y aller, il valait mieux y aller sans habit parce que c'est un petit peu technique. Quoi.
Mais avant d'être confrontés au quotidien, les astronautes doivent déjà habituer leur corps à ce nouvel environnement. Et les premières heures à bord de la station sont vraiment inoubliables.
Ça, c'est un moment assez magique. Pour moi, j'ai vécu un peu comme un moment de science-fiction en voyant cette station spatiale et ses panneaux solaires approcher au fur et à mesure. Ces deux vaisseaux à 28 000 km/h qui vont réduire leur vitesse relative pour avoir un amarrage en douceur. La jonction, la vérification que tout va bien, l'ouverture de l'écoutille. Et là, vous entrez dans un immense volume. On trois dimensions. Bien évidemment, vous allez utiliser le plafond, le mur de droite, le mur de gauche. Vous retrouvez un équipage qui est à bord et que, avec qui vous avez vécu pendant ces longs mois d'entraînement. Donc, un grand moment d'amitié et de plaisir à se retrouver. Et puis, 24 premières heures, je dirais, où il faut quand même adapter votre organisme à la nouvelle situation. Bon, les références ne sont plus les mêmes, ce n'est pas du haut vers le bas. Vous devez contrôler vos mouvements, votre façon de vous déplacer, votre orientation dans ces modules en trois dimensions de la station, avec quelques petites conséquences physiologiques, bien évidemment, de l'absence de gravité, l'impression d'avoir la tête lourde, l'impression d'être un petit peu désorienté. Mais ça s'adapte très vite. Moi, j'ai trouvé qu'en 24 heures, on était déjà tout à fait capable de s'adapter correctement. Et il faut aller vite parce qu'on est là pour travailler. On est là pour démarrer le programme scientifique.
On a des boîtes à gants ici pour faire des expériences de biologie cellulaire. On a des outils qui permettent de mesurer la densité osseuse parce que la perte de densité osseuse pour les astronautes, c'est quelque chose de critique.
C'est la machine à gauche, là ?
C'est cette machine-là. On a tous les équipements pour les procédures de secours, les extincteurs, différents types d'extincteurs. Ceci, c'est ce qu'on utilise pour parler au sol. Donc, quand on dit Houston Station, we have a problem or we have no problem, on espère, c'est en utilisant ceci. Donc, il y a quatre channels différents avec lesquels on peut parler donc, à Houston, à Cologne ou aux différents partenaires de la station spatiale. C'est relativement rangé ici. En réalité, ce que j'ai entendu dire, parce que moi, je ne suis jamais allé, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est un peu le bordel. C'est-à-dire qu'il y a des caisses un petit peu partout, et tant qu'il y a un chemin qui permet de passer à travers, c'est relativement accepté, mais c'est un peu plus bordélique que ce qu'il y a ici.
Pour moi, ça me paraît normal, mais le sol est dégagé. Parce qu'il n'y a pas de sol dans l'ISS.
Exactement, il n'y a pas de sol dans l'ISS. Alors, il y a quand même des lampes qui permettent que tout le monde ait une référence commune de où est le haut, où est le bas. Parce que si on passe notre temps à voir des gens qui ont la tête en bas, la tête sur le côté, des choses comme ça, pour le cerveau, c'est un peu compliqué. Donc, il y a quand même un haut de référence, mais qui physiquement n'a aucune signification, en effet, comme tu dis. Et le sol ici est dégagé parce qu'il y a de la gravité, on n'a pas envie de marcher sur les objets, mais en réalité, il y a des modules, enfin des racks, ça s'appelle. Il y a des racks similaires à celui-ci au sol aussi. C'est juste qu'ici, on ne les a pas reproduits parce qu'on n'a pas envie de marcher dessus.
Et voilà, on reprend ses repères par rapport à ce qu'on a appris en simulateur. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'il y a plus de haut et de bas. Donc, il faut apprendre à les utiliser différemment, apprendre à fixer chacun des éléments avec lesquels on va travailler parce que tout flotte si rien n'est fixé. Donc, un nouvel apprentissage de la façon de travailler. Vous êtes en microgravité, votre corps complètement libéré de son poids, vous flottez. Donc, vous avez moins d'utilisation de vos muscles. Vous allez perdre du muscle. En perdant du muscle, ce muscle va moins stimuler l'os. Vous allez fragiliser votre os. Et ces aspects de trophicité musculaire et osseuse, ça correspond à ce qu'un sportif ou une personne âgée peut connaître quand il a moins d'activité physique. Quand une personne âgée va commencer une ostéoporose, une décalcification. Donc là aussi, comprendre comment la gravité, cette stimulation mécanique, intervient dans ces phénomènes-là, va permettre de mieux aider l'astronaute à développer sa mission en bonne santé et va nous permettre de penser des traitements, ce qu'on appelle de la physiopathologie, de façon différente au sol.
Donc les muscles prennent cher, c'est-à-dire qu'ils sont, enfin, en fait, ils sont plus du tout entraînés, ce qui en soi n'est pas un problème dans l'ISS, mais quand on revient sur Terre, là c'est un problème, et c'est pour ça qu'on voit que les astronautes sont transportés en dehors des capsules, etc. Mais il faut quand même essayer de contrer ces effets-là en faisant du sport.
Vous faites quoi comme sport ici ? Vous ne pouvez pas soulever des poids ?
Good point. Non, mais c'est vrai. Donc, il y a des machines spéciales qui ont été développées pour simuler des exercices. En fait, c'est des exercices classiques qu'on fait sur Terre, des squats, des levées d'haltères, des choses comme ça, mais pour pouvoir les faire en 0G. Donc, il y a des machines qui sont disponibles à Houston, qu'on apprend à utiliser pour faire tous ces exercices-là. Ça, c'est pour l'entraînement musculaire. Il y a aussi un tapis de course, et on est attaché avec des gros élastiques au tapis de course et on court. Et le tapis, il est dans cette direction-là, donc de temps en temps, on voit un astronaute qui court en fait, à l'horizontale. C'est le tapis de course et il y a aussi un vélo.
Avant le sport et la maintenance, ce sont avant tout les expériences scientifiques qui rythment le quotidien des astronautes. Et Sophie Adnaud, elle, en réalisera environ 200 lors de son voyage.
Et si j'évoque le vol de Sophie Adnaud, Sophie va avoir 200 expériences scientifiques à l'international, les unes françaises et européennes, mais elle va travailler avec les Japonais, avec les Américains, enfin avec les Canadiens, donc un spectre très très large. Ça c'est le domaine des sciences du vivant, puis il y a un autre domaine bien évidemment qui est passionnant dans le champ de la recherche, c'est les matériaux, les fluides, la combustion, les alliages, les plasmas, tout ça est conditionné au sol par l'existence de la gravité. Donc ça permet de trouver de nouveaux matériaux, de révolutionner certaines hypothèses et puis de changer certaines pages de nos livres de physique, carrément.
Donc nous, les expériences, même nous en tant qu'agence spatiale française, on en monte tout le temps.
Et d'ailleurs, Rémi Canton, lui, envoie 7 expériences françaises pour le vol de Sophie Anneau. Le but, ce serait de tester un échographe avec de l'intelligence artificielle. Il y a aussi un appareil pour analyser les micro-contaminations et même une autre expérience pour les enfants qui feront germer des graines.
En fait, l'astronaute aussi a deux rôles. Soit il a un rôle d'opérateur, c'est-à-dire vraiment ça va être nos mains, nos yeux à bord pour voilà, installer, dérouler l'expérience, faire ce, voilà, prendre des photos. Et après, il y a des expériences dans la physiologie humaine où ils sont sujets. On n'aime pas utiliser le mot cobaye, mais là, le but, c'est dans un champ très particulier. Alors, on a, peut-être que vu du grand public, on fait que ça, mais c'est qu'une partie. La physiologie humaine, c'est étudier voilà, les, toujours des phénomènes dont on cherche, qu'on cherche à mieux comprendre plus finement, que ce soit dans les neurosciences, dans le cardiovasculaire, dans le vestibulaire, etc. Donc, étudier comment... la micro-pesanteur induit ce qu'on appelle un vieillissement accéléré. En fait, les êtres humains, on est fait pour vivre en gravité une. Le fait d'être en chute libre permanente, on ne ressent plus les effets de la gravité. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de gravité, mais il n'y a plus ses effets, il n'y a plus le poids notamment. Voilà, on ne soulève plus rien, etc. Donc, en fait, le corps il est surdimensionné, il s'affaiblit. Donc, on a parlé des muscles, des os, etc. Mais tout est un petit peu déréglé. Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir des gens en bonne santé, dont on peut suivre un petit peu le dérèglement, mais en le contrôlant, parce qu'on doit à la fois protéger leur bonne santé, s'assurer que tout va bien, et profiter des perturbations pour apprendre des choses, faire de la recherche médicale. Donc on est sur cette ligne de crête entre la protection et l'observation des perturbations.
À la fois, on réalise des expériences scientifiques pour la communauté scientifique, et puis on est aussi le cobaye soi-même, puisqu'on essaie de voir comment le corps humain va s'adapter à cette situation particulière. Alors, j'avais un gros programme dans le domaine qu'on appelle les sciences de la vie, sciences du vivant. Alors le vivant, c'est l'humain, à la fois de l'instrumentation médicale, et puis comment, sur le plan cognitif, j'avais gardé ou j'avais amélioré des possibilités, comment le geste, la posture était modifiée, des questions qu'on se pose parce qu'au sol, on est contraint par le facteur de gravité. Il est là, il est présent, on ne peut pas s'en détacher. Les scientifiques peuvent se poser des nouvelles questions quand on est libéré de ce facteur de gravité. Comment s'organise une représentation tridimensionnelle dans le cerveau? Comment un geste va être transformé? Comment la précision d'une interface, la façon de travailler avec une machine va être perturbée par l'absence d'une référence de gravité? Sur le plan cardiovasculaire, il y a plus ce qu'on appelle le gradient de pression hydrostatique, du haut vers le bas. Ça n'existe plus en microgravité. Les liquides, les masses liquidiennes sont réparties de façon harmonieuse. Donc on va tester comment notre organisme va s'adapter à cette situation.
Vous n'attendez pas d'avoir des astronautes français, justement, françaises, non, pour faire ces exercices-là
il faut bien s'imaginer, encore une fois, l'ISS est un laboratoire, j'allais dire comme un laboratoire au sol. Évidemment, non, en termes de logistique. Mais les équipages, enfin dans un laboratoire, quelqu'un peut au sol, à l'Institut Pasteur par exemple, un chercheur peut y travailler 25 ans. On ne va pas envoyer un astronaute pendant 25 ans. Ils vont faire des rotations de 6 mois. Donc c'est comme si tous les 6 mois on changeait l'équipe. Mais la recherche, elle dure bien plus longtemps, la plupart du temps, que la mission d'un astronaute. On peut penser qu'un astronaute, pour ceux qui ne voient les missions des vols habités uniquement via le spectre des missions de Thomas Pesquet et de Sophie Adonneau, il ne faut pas croire que Thomas monte avec ses expériences et ressort 6 mois plus tard avec ses résultats. Il s'inscrit dans une lignée de... Voilà, c'est presque comme s'il était en CDD de chercheur pendant 6 mois et il est relayé par un autre, et puis par un autre, et puis par un autre. L'ISS est habité en permanence depuis plus de 25 ans. Et la science, elle est longue, c'est répétition. Même quand on parlait tout à l'heure du sommeil, quand on a mesuré des choses sur Thomas, on peut rien en déduire sur un seul sujet. Donc il faut le refaire, et puis avoir que ça ait une certaine valeur statistique pour observer des choses.
Et le petit temps disponible pour profiter de cette vie en collectivité multiculturelle, en coopération, et puis de cette vue par le hublot, vous le grappiez un petit peu sur des temps complémentaires. Une fois que les manips sont finies, une fois que le programme de la journée est fait, vous allez essayer de passer un petit peu du temps pour à la fois grandir vous-même de cette expérience extraordinaire qu'est la mission spatiale, et puis aussi emmagasiner des perceptions, des images, pour le transmettre et le raconter. Au retour à mon époque, aujourd'hui en temps réel, avec les moyens de communication qui sont à bord de la station.
Ça, mais j'ai entendu dire que les journées étaient quand même très chargées, et que c'était pas mal de se rappeler quand même tous les jours d'aller jeter un coup d'œil par la fenêtre pour voir la Terre et pas arriver au bout de la journée en se disant bah, au final j'ai même pas réalisé que j'étais dans l'ISS.
Cette découverte de la planète isolée dans le cosmos, c'est avec sa beauté et sa fragilité, et c'est vrai que les premières heures passées dans une station spatiale, c'est une bouffée d'émerveillement, de fascination, et puis aussi une prise de conscience de la responsabilité qu'on est là pour travailler et qu'il faut se mettre au travail.
Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de cette série documentaire sur le départ de Sophie Adnaud pour l'ISS. Dans le prochain épisode, on s'intéresse aux expériences à bord de la station et pourquoi la France est-elle pionnière dans l'espace. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en nous laissant une note ou un commentaire. Tous nos épisodes sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application BFM. Départ pour l'ISS, un voyage vers le futur. C'est une série réalisée par Jean-Baptiste Perra.